RFI 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Charlotte de Rouen.
Ce premier compromis au Parlement sur le budget de la France pour 2025, c'est une étape décisive de franchie. Après une journée et demie de travaux à huis clos, la commission mixte paritaire est parvenue à se mettre d'accord sur un compromis. Cette grève des agents de l'Office français de la biodiversité, ils se sentent abandonnés par les responsables politiques et leur travail menacé par certains syndicats agricoles. Des avocats pointés du doigt par le magazine d'extrême droite Frontière car ils traitent de dossiers liés à des demandes d'asile et titres de séjour. En Bretagne, la tombe de l'ancien chef de l'extrême droite Jean-Marie Le Pen profanée. Et puis du rugby, la France est sur le point de battre à plate couture le Pays de Galles en match ouvert. Ouverture du tournoi des Six Nations.
RFI.
À suivre également dans la prochaine demi-heure, le Festival international de la BD d'Angoulême, 52e édition, et toujours autant d'expositions à découvrir. Et puis à la une du journal de l'Outre-mer, Elisabeth Borne et Manuel Valls à Mayotte.
RFI.
Fumée blanche à l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs est chargée de trouver un compromis sur le budget a donc trouvé un accord sur un texte sans dissiper toutefois pour le moment les menaces de censure agitées par la gauche et le Rassemblement national. Cette version du budget de l'État pour 2025 prévoit donc notamment le rétablissement de 4000 postes dans l'éducation nationale, une contribution exceptionnelle des grandes entreprises pour un an ou encore la baisse de 111 millions d'euros des crédits consacrés à l'AME, l'aide médicale d'État. Chaque camp essaie de tirer les ficelles en montrant ce qu'ils ont obtenu. Charlotte Urien-Tomaka.
Dominé par les soutiens du Premier ministre avec 8 parlementaires issus des rangs de la coalition gouvernementale, ce conclave disposait d'une majorité pour s'accorder sans tenir compte des votes des élus de gauche et du Rassemblement national. Pour Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République et suppléant dans cette CMP, c'est un compromis historique.
C'est la France qui sort gagnante de ce compromis historique avec, et il faut aussi le remarquer, un déficit de 5,4% qui a été respecté.
Jean-Philippe Tanguy, député RN et membre également de cette CMP, estime que l'humiliation est lourde pour les Républicains et que les socialistes ont vendu, je cite, ce qu'il leur restait d'âme.
Le seul qui s'en sort avec la tête haute, c'est évidemment le Rassemblement national, qui pour le moment a obtenu l'ensemble des lignes rouges.
Du côté des socialistes, on affirme avoir voté contre le budget pour marquer son appartenance à l'opposition. Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée.
Nous nous sommes battus pour que les économies sur un certain nombre de politiques publiques qui sont essentielles ne soient pas ce qu'ils étaient au Sénat.
Les membres PS de la commission mixte paritaire vont désormais rendre compte à leur direction des avancées obtenues, avec en ligne de mire la motion de censure de la France insoumise qui devrait être déposée dès lundi si le Premier ministre décide de déclencher l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget sans vote.
Cette passe d'armes entre Bernard Arnault et Michel-Édouard Leclerc à la tête de LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, Bernard Arnault s'était insurgé de la surtaxe sur les grandes entreprises qui est censée rapporter 8 milliards d'euros à l'État en 2025, dénonçant une taxe sur le Made in France qui pousse, je cite, à la délocalisation. Ce vendredi matin, Michel-Édouard Leclerc, le patron de la chaîne de grande distribution, fustige un chantage. Je n'ai jamais dit que nous allions délocaliser le groupe. LVMH lui a répondu un peu plus tard. Bernard Arnault sur le réseau social X. Cette grève inédite des agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, les inspecteurs de cet organisme public chargé de faire respecter les règles en matière d'environnement, réclament davantage de soutien du gouvernement. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre François Bayrou a ouvert la boîte de Pandore en qualifiant d'humiliation certaines inspections menées par l'OFB dans des exploitations agricoles. Le secrétaire général du deuxième syndicat agricole, la coordination rurale, a déclaré cette semaine une voiture de l'OFB qui entre dans une exploitation sera brûlée sur place. Alors pour les agents, dont 70 locaux ont été vandalisés l'an dernier, c'en est trop, Stéphanie Schuller.
Un soutien sans ambiguïté du gouvernement, c'est permettre aux inspecteurs de l'OFB de porter leurs armes de service de façon non dissimulée, de maintenir leurs effectifs et de traduire en justice ceux qui s'attaquent à eux, réclament les grévistes. Dans les faits, les conflits avec des agriculteurs sont d'ailleurs rarissimes, 180 sur près de 400 000 contrôles. Sylvain Michel, délégué syndical de la CGT Environnement.
Ces contrôles se passent de manière apaisée. On explique les choses, on essaie d'aider les agriculteurs à comprendre et appliquer la réglementation environnementale. Donc c'est quelques cas rarissimes qui ont été montés en épingle par ces syndicats d'agriculteurs à des fins électoralistes.
Cet agent de l'OFP regrette la récupération politique par François Bayrou. Un tour de passe-passe qui, selon Sylvain Michel, affaiblit la protection de l'environnement en France et masque les véritables problèmes des agriculteurs.
Pour eux, les contrôles administratifs, ça devient une pression supplémentaire quand leur situation économique est déjà très fragile. Donc il faut travailler sur l'origine des problèmes et vraiment remettre en cause le modèle agricole aujourd'hui. Dire que l'agro-industrie n'a pas d'avenir et qu'il faut revenir vers une agriculture vertueuse, respectueuse de l'environnement, qui rémunère correctement les paysans.
Le mouvement de protestation au sein de l'OFB est très largement suivi. 67% des agents sont en grève ce vendredi.
Stéphanie Schuller, la ministre Aurore Berger, visée par une enquête pour faux témoignage dans le scandale des crèches privées. Elle avait nié tout lien avec une lobbyiste représentant ces établissements. Mais ses propos avaient été remis en cause quelques mois plus tard dans le livre enquête du journaliste Victor Castanet qui évoque un pacte de non-agression qui aurait été conclu entre la ministre et la déléguée générale de la Fédération française des crèches. La Cour de justice de la République a donc ouvert une information judiciaire contre l'ex-ministre des Familles. C'est une publication qui choque les avocats. Dans un hors-série, le magazine d'extrême droite Frontières dresse une liste des avocats qu'il considère, je cite, « coupables du chaos migratoire », avec un palmarès des professionnels du droit qui traitent le plus de dossiers liés à l'obtention d'un titre de séjour et les tribunaux et préfectures jugés laxistes. Le Conseil national des barreaux a saisi le parquet. Amélie Beaucourt a pu s'entretenir avec certains des avocats dont le nom figure dans le magazine.
J'ai du mal à comprendre qu'on puisse nous attaquer simplement parce que l'on effectue notre travail.
C'est la première fois en 14 ans d'exercice qu'elle se retrouve prise pour cible parce qu'elle défend des personnes étrangères. Le média d'extrême droite Frontières l'a recensée parmi une soixantaine d'avocats considérés comme les plus actifs dans la défense de ceux qu'ils nomment les clandestins.
Je me suis rendu compte qu'en réalité, il ne s'agissait pas du tout d'une enquête journalistique vraiment objective, mais plutôt de propagande politique. Et je vous avoue que ces dernières heures, je commence à être un petit peu inquiète parce que je vois que de nombreux avocats qui sont cités reçoivent des attaques, des messages, des menaces.
Maître Samy Djemaoun et son associé ont justement déposé plainte après des attaques reçues. Leur nom figure non seulement dans le hors-série de Frontières, mais également dans des vidéos calomnieuses montrant leur visage et relayées sur les réseaux sociaux.
Des gens qui demandaient à savoir où est-ce qu'on habitait, des autres qui nous disaient qu'il fallait... nous guillotiner, enfin voilà, je vous passe les détails, mais j'ai pas trop les mots. On se demande pourquoi on a été ciblé aussi brutalement que ça.
Le syndicat des avocats a rappelé son soutien aux personnes visées, y compris les magistrats et les associations, pointées du doigt dans cette publication qu'il qualifie de torchon de la haine.
Trois semaines après avoir été inhumée, la tombe de Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, a été dégradée à la Trinité-sur-Mer en Bretagne. Les précisions de Sylvie Coffy.
La croix est cassée. Les plaques en hommage à Jean-Marie Le Pen et à sa famille, inhumées dans le même caveau, sont renversées. Le marbre est fondu. On dirait des coups de masse, a déclaré Gilles Pénel, député européen du Rassemblement national et conseiller régional de Bretagne. La tombe profanée fait actuellement le tour des réseaux sociaux sur X. L'une des filles de Jean-Marie Le Pen, Marie-Caroline Le Pen, a posté le cliché avec ce commentaire « Ceux qui s'attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants ». Sur le même réseau social X, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a de son côté dénoncé une abjection absolue. Alors que les obsèques de Jean-Marie Le Pen se sont déroulées sous haute surveillance, suite à la profanation de sa tombe, la gendarmerie du Morbihan a décidé de réactiver le dispositif afin de sécuriser le cimetière de la Trinité-sur-Mer.
Sylvie Coffy, ça fait maintenant un millier de jours que Cécile Kohler est détenue en Iran. Sa famille demande au président président Emmanuel Macron d'intervenir pour obtenir sa libération. L'enseignante française a été arrêtée le 7 mai 2022. Au dernier jour de son voyage touristique dans le pays, les autorités iraniennes l'accusent d'espionnage. Son compagnon, Gilles Paris, a été arrêté en même temps qu'elle. Deux autres Français sont aussi toujours détenus en Iran. Emmanuel Macron a réagi ce soir, dénonçant une détention indigne et arbitraire et annoncé qu'il recevrait prochainement leur famille.
24 heures en France sur RFI.
En Ligue des Champions, le tirage au sort des barrages a eu lieu ce midi. Après la dernière journée de phase régulière qui avait lieu mercredi, les 16 équipes qualifiées connaissent désormais leur adversaire avec trois clubs français en lice. Monaco qui recevra le Benfica, le Stade Brestois qui a fait sensation lors de la première phase retrouvera le Paris Saint-Germain. Duel franco-français entre l'ogre parisien et le petit poucet breton. En Ligue 1, Montpellier recevait Lens ce soir. Les nordistes l'emportent 2-0. Mbalan Zola a ouvert le score 34 secondes seulement après le coup d'envoi. On part à présent direction le Stade de France où le match de rugby entre la France et le Pays de Galles, eh bien, c'est terminé. Babacar Diarra, vous êtes sur place pour RFI. Le 15 de France a écrasé ses adversaires.
Le rouleau compresseur du 15 de France était trop fort, beaucoup trop fort pour les Gallois. Et même dans une seconde période, finalement, dans la gestion, eh bien, ces Français ont continué d'appuyer très fort sur cette défense galloise qui a cédé à trois reprises, deux essais supplémentaires d'abord pour les entrants Julien Marchand et Emilien Gaëton, puis un sixième en toute fin de match, un essai collectif conclu par le Rochelais Grégory Aldrit. Trop puissant et trop solide ces Français, qui ont aussi très bien défendu face aux rares assauts gallois. Des débuts parfaits pour le 15 de France avec aucun point encaissé. À noter le retour contrasté de Romain Tamac, exclu pour un coup d'épaule, et puis le retour conspué par le Stade de France d'Oscar Jégou et Hugo Oradou, les deux joueurs au cœur de la controverse lors de la tournée estivale.
Babacar Diarra en direct du Stade de France. Elle était l'emblème des Jeux Olympiques de Paris, la vasque olympique de retour au cœur de la capitale chaque été au Jardin des Tuileries jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028. Voilà ce qu'ont annoncé Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo, aujourd'hui. Le président français qui propose par ailleurs d'instaurer une fête du sport tous les ans le 14 septembre à l'image de la fête de la musique avec des démonstrations et des compétition pour favoriser les pratiques sportives.
24 heures en France, Charlotte de Rouen.
Cap sur Angoulême, à présent, où se tient jusqu'à dimanche le 52e Festival international de la bande dessinée. Au programme, des masterclass d'auteurs, des signatures, mais aussi des expositions. La scénariste Julie Birman est au micro de notre envoyée spéciale à Angoulême, Sophie Torlotin.
Julie Birman, bonjour.
Bonjour.
Votre travail est mis en lumière cette année au Festival d'Angoulême, puisque vous avez reçu l'an dernier le prix Goscinny, donc qui récompense le meilleur scénariste. Pourquoi avez-vous choisi d'intituler votre exposition « Les herbes folles » ?
C'est un vieux rêve en fait. Je pense que si tout le monde avait envie d'être une herbe folle sur Terre, le monde irait mieux. Et il se trouve qu'en fait, tous les personnages féminins de mes bandes dessinées peuvent être taxés de cette épithète d'herbe folle.
Les personnages féminins, on pense bien sûr à Fernande, hein, derrière Pablo Picasso. Vous avez signé plusieurs tomes avec Clément Brué au dessin. On pense évidemment à Gala, qui est un personnage important aussi de la trilogie que vous consacrez à Dali. Le tome 2 vient de sortir.
Alors peut-être que Gala, c'est pas vraiment une herbe folle, c'est peut-être Dali l'herbe folle, qui va être un peu domestiquée ou dirigée par Gala, parce que Gala, c'est une femme puissante. Fernande, donc c'était la première grande amoureuse de Picasso, et c'est elle qui raconte la jeunesse de Picasso. Et c'est vrai que c'est aussi une envie que j'avais, c'était de raconter l'histoire du point de vue des femmes oubliées, et même qui ont été forcées de se taire, parce que il y a une sorte de constante quand même dans l'histoire, qui est en train de changer, qui est que le point de vue est nécessairement masculin, et en fait, en tout cas dans les muses, toutes ces femmes qui ont accompagné les artistes, elles n'ont jamais eu voix au chapitre, même si on voit leur corps s'étaler sur les toiles.
Et donc, dans l'exposition, on parle de Fernande, on parle de Gala. On parle d'autres héroïnes.
Il y a aussi les drôles de femmes que j'étais allée voir avec Catherine Meurice. C'était ma première bande dessinée. Et c'était des femmes d'aujourd'hui que j'étais allée voir et qui étaient un peu des modèles. Je cherchais des modèles pour guider ma vie en tant que jeune autrice.
Julie Birmand, l'affiche de l'exposition Les Herbes Folles vous représente en géante, avec comme ça les cheveux blonds au vent, avec un minuscule peintre sur son genou. Souvent, on parle dans bande dessinée, on met beaucoup en lumière les dessinateurs et peu les scénaristes. Là, c'est l'inverse.
Alors oui, et c'est vrai que les commissaires de l'exposition ont voulu insister sur ce rapport du regard, en fait, entre la muse et le peintre. D'habitude, en fait, c'est le peintre qui a le pouvoir. Et là, en fait, c'est la muse qui raconte. C'est Fernande qui raconte. Et il est vrai que je vis avec un dessinateur, que j'ai toujours vécu avec des dessinateurs et que, d'une certaine façon, ce côté où on s'occupe de l'artiste, c'est un truc qui est très ancré dans la société, et ça a été aussi un petit peu mon rôle, sauf que moi je suis une muse qui parle et qui écrit. Donc c'est vrai, en même temps l'affiche c'est plus universel que ça, c'est la muse et son peintre. C'est vrai qu'il est tout petit le peintre, que c'est Clément qui l'a dessiné, et c'est aussi son regard amusé sur les choses, parce que Clément c'est quelqu'un qui est un grand amoureux des femmes, de la femme, donc c'est pas uniquement moi qui l'a dessiné.
Julie Birmand, merci.
Notre envoyée spéciale à Angoulême, Sophie Torlotin, qui est aussi allée visiter pour nous Hyper BD, l'exposition dont vous êtes les héros et héroïnes. Les visiteurs sont appelés à se mettre dans la peau d'un auteur de BD et de comprendre le long et difficile parcours avant le Graal, la publication. Reportage.
Ça démarre sur une table de dessin. Et puis il y a plusieurs choix possibles, comme les livres dont vous êtes le héros.
Émilie Plateau, qui a raconté avec humour son expérience d'autrice de bande dessinée dans son livre « L'épopée infernale », récidive à grande échelle en concevant le parcours sinueux et à choix multiples de cette exposition.
Soit on envoie son projet, on est publié, ça c'est Adrienne Tominet, sinon on doute, on hésite, ou alors on fait du fanzine, on tente le concours Jeune Talent, on passe par une école... Parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire de la bande dessinée. Voilà, je voulais englober tout ça.
Sur votre chemin, attention aux choses trappes. Il pourra vous arriver d'errer dans la forêt du doute ou de vous retrouver au bord de la falaise maléfique. Émilie Plateau met en avant la diversité des parcours et celles et ceux, par exemple, qui se sont fait connaître grâce à des dessins sur les réseaux sociaux.
Instagram, c'est le nouveau blog. Après, je ne sais pas trop ce que ça va donner puisqu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices maintenant qui veulent quitter Instagram. Après tout ce que Mark Zuckerberg a dit d'horrible, je sais pas, ça va peut-être faire un renouveau encore dans la manière de diffuser son travail, on verra bien.
À un autre endroit, des jeunes découvrent un Minitel.
En fait, si, ça marche pas, j'ai l'impression.
Vous savez ce que c'est ?
Non, je sais pas. Non, j'ai jamais vu.
Comme un pied de nez aux nouvelles technologies, un auteur utilise ce terminal français ancêtre d'Internet.
C'est un auteur qui est publié chez Super Loto qui s'appelle Bingo et qui a fait une bande dessinée par l'outil Minitel. C'est un système de taper sur un clavier et le dessin se fait par ligne.
C'est là où ta fille est.
Votre quête s'achève si vous arrivez au numéro 21, la publication.
Le Graal, c'est évidemment de publier une bande dessinée.
Devant un livre géant, le visiteur peut appuyer sur une pédale.
Moi, ma BD. Et quand on appuie dessus, eh ben ça fait waouh.
Ce qui aurait été génial, c'est qu'il y ait une fontaine de champagne et puis des petits confettis qui tombent à chaque fois en or ou des dollars peut-être, je sais pas. En fait, on se met devant la bande dessinée, donc le gros livre, et il y a une pédale sur laquelle on appuie et il y a une lumière qui s'allume. Et attention, c'est une trappe, donc on peut tomber dans la fosse au dragon et se faire manger, mais faut déjouer les pièges pour cette expo.
Une chose est sûre, il vous faut bien plusieurs tentatives pour passer par toutes les salles et arriver au bout de cette exposition dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Sophie Torlotin, Angoulême, RFI.
Et à Angoulême, il est 23h18, minuit 18 à Mamoudzou. Deux anciens premiers ministres au même moment à Mayotte. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Invité jeudi soir du journal télévisé de la première Mayotte, l'ancienne première ministre qui a visité plusieurs établissements scolaires s'est déclarée impressionnée par l'enthousiasme et le dynamisme de la jeunesse mahoraise. Le ministre des Outre-mer, lui aussi ancien Premier ministre, s'est rendu pour sa part dans le nord de la Grande Terre ce vendredi, et plus précisément dans la commune de Msamboro, durement touchée par le cyclone Chido, l'occasion pour Manuel Valls, qui s'y était engagé, d'annoncer la réouverture du dispensaire de la commune, à la grande satisfaction du maire, Laïtudine Ben Saïd. Il est au micro de Sonny Chamsoudine.
Samboro est un désert médical, comme le nord d'ailleurs, l'extrême nord. Et donc on avait, lors de sa dernière visite, on avait demandé à ce que le dispensaire de Samboro soit réouvert. Et il a tenu l'engagement, c'est un homme de parole, c'est un homme de terrain. Il a tenu parole et le dispensaire de Samboro sera réouvert pour le bonheur de toute la population de l'extrême nord. C'est un soulagement pour, pas pour moi, c'est un soulagement pour la population, pour ceux qui sont dans le besoin. La plupart du temps, c'est ouvert, mais il n'y a pas de personnel. Donc, que le personnel soit là et que ça soit pérenne.
L'automobiliste décédé jeudi soir sur la route du littoral, cette quatre voies qui relie Saint-Denis à l'ouest de l'île de la Réunion, aurait-il été victime des désormais tristement célèbres airbags Takata? La question est posée au vu de ses blessures et du modèle de voiture qu'il conduisait. Erwan Poney.
Des blessures caractéristiques des explosions d'airbags, c'est le constat des pompiers qui sont intervenus jeudi soir sur la route du littoral. La victime conduisait une Honda Jazz de 2003, un véhicule qui fait l'objet d'un rappel pour airbags dangereux depuis quelques mois à peine selon le site du constructeur. Pourtant, la dangerosité des airbags de la marque Takata est connue depuis plus de 20 ans aux États-Unis. Ils se dégradent sous l'effet du temps, de l'humidité et des variations de température. Ils explosent en envoyant des pièces métallique dans le véhicule. Dans les territoires d'outre-mer, le risque d'explosion est donc plus important. Depuis 2016, au moins 15 personnes ont été tuées par l'airbag de leur voiture en France, dont 14 outre-mer. L'outre-mer, où au moins 100 000 propriétaires concernés n'ont toujours pas contacté leur concessionnaire pour faire changer leur airbag. Il serait un demi-million dans l'Hexagone.
Otage d'un groupe djihadiste pendant près de 2 ans au Mali, le journaliste Olivier Dubois vient de sortir un livre intitulé « Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda » aux éditions Michel Lafond. Dans cet ouvrage, le Martiniquais livre le témoignage inédit d'un captif dans l'une des régions les plus sensibles et dangereuses au monde. Tidiane Amaron l'a rencontré.
Le livre, il a été fait avec mes notes, mes souvenirs, et puis j'ai mis les émotions, j'ai de me replonger dans l'état dans lequel les événements me plongeaient.
711 jours dans le désert, hostile et indifférent. Olivier Dubois nous plonge dans sa captivité avec une étonnante précision de détails, comme si on y était.
C'est le récit, ce livre, de l'époque, la période la plus terrible et la plus extraordinaire de ma vie. Donc forcément, ça marque, il y a des tas de choses, il y a des tas de scènes qui sont gravées. J'avais de quoi faire, oui, beaucoup plus que le livre que j'ai fait là d'ailleurs, j'ai dû vraiment faire synthétique. Et puis, je n'ai pas raconté cette histoire à mes proches, à ma famille. On a abordé un peu certains points comme ça, mais il y avait, voilà, j'y arrivais pas. Et c'était l'occasion de leur donner cette histoire à la main directement, et puis de faciliter peut-être après les conversations, les confidences.
Pas soumis, mais observateur, le métier de journaliste lui permet de survivre à sa condition de prisonnier, tout comme la découverte, grâce à un poste de radio, du soutien qui s'organise pour sa libération jusqu'à Martinique.
Vous êtes seul, votre famille vous manque, vous êtes otage, vous n'avez pas votre libre arbitre, donc évidemment savoir que votre famille pense à vous. Je l'apprends pendant ma captivité, à ma grande surprise, l'île s'est mobilisée, ça fait chaud au cœur, vous dites bah les racines sont là, ça va jusque là-bas et vous attendez de ça un incroyable espoir et il viendra.
Résister à la captivité en imaginant même que le prisonnier, c'est quelqu'un d'autre, ce Zeytoun, comme l'appelaient ses geôliers, 2 ans après sa libération, le temps est encore à la reconstruction.
Il n'y a pas une date, on peut dire, tiens, ça y est, vous allez bien, il vous faut 6 mois, 5 mois. Ça va être un travail long, je suis suivi. Il faut que ça devienne des souvenirs et pas que ça reste des blessures. Et ce travail continue.
Olivier Dubois confie être en tout cas prêt à reprendre le métier. Le Sahel reste, à ses yeux de journaliste, passionnant.
Fin de cette édition. Bonne soirée, bon week-end.
Merci Benoît Ferrand, bon week-end à vous également.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
C'est une maladie qui, sous ses différentes formes, affecte entre 700 000 et 1 million de personnes chaque année à travers le monde, selon l'Institut Pasteur. Caroline Paré évoque les leishmanioses avec son invitée.
Professeur Ariski Isri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de parasitologie mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne. Comment la leishmaniose, cette maladie tropicale négligée, est-elle diagnostiquée?
Alors, on ne peut pas parler de la leishmaniose, mais des leishmanioses. Il y a la forme viscérale, qui est la plus dangereuse, qui est mortelle. Et même dans la forme viscérale, il y a plusieurs formes. Il y a deux formes viscérales différentes. Et puis, surtout, les plus fréquentes, les leishmanioses cutanées ou cutanéomuqueuses, qui sont de loin les plus répandues, les plus importantes. Alors comment on les diagnostique? C'est en mettant en évidence le parasite, soit au niveau des plaies, soit au niveau de la moelle osseuse dans certains cas.
Le phlébotome, c'est le vecteur de la maladie, autrement dit l'insecte qui va inoculer le parasite, il ressemble à quoi?
Alors le phlébotome est un tout petit insecte, ou peut-être 2 à 3 millimètres, avec, je dirais, des longues pattes, des ailes dressées en V sur le dos, des ailes qui se terminent en pointe. Alors il a de beaux yeux, mais ça c'est pour les entomologistes. Voilà, il ressemble un peu à un moustique, mais c'est pas un moustique.
Et comment on peut limiter sa prolifération?
La prolifération du phlébotome ou des leishmanioses?
Du phlébotome.
Oh, ça c'est pas évident, parce que les phlébotomes se trouvent dans différents milieux et donc ils sont très répandus et dans le monde entier.
Dans le monde entier, la leishmaniose, il y a un médicament en prévention?
Alors il n'y a pas vraiment de médicaments préventifs, mais il y a des médicaments pour soigner. Ça se soigne très bien quand on a les produits.
Merci professeur Ariski Isri. Aujourd'hui dans Priorité Santé, émission Questions de femmes, on va parler des troubles et maladies de la thyroïde, prévention, diagnostic, prise en charge. Un spécialiste à votre écoute, à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré, on fait à présent un point sur la bourse à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec vous Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones termine la semaine sur une chute de 337 points et revient donc à 44 545. Le Nasdaq lui cède 54 points et finit à 19 627. Les derniers signaux de l'inflation aux États-Unis sont en gros conformes aux anticipations. L'inflation ne baisse plus, mais elle ne flambe pas pour autant en dépit d'une forte consommation. L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation, qui est la mesure de l'inflation que la Fed préfère, progresse de 0,3% au mois de décembre. C'est le gain le plus net depuis le mois d'avril. Voilà qui porte à 2,6% l'inflation américaine l'an dernier. C'est un chiffre trop élevé aux yeux de la Banque centrale, qui cherche à atteindre à moyen terme une inflation de 2%. Si l'on ne tient pas compte des prix volatiles de l'énergie et des prix des produits alimentaires, l'inflation américaine a été de 0,2% au mois de décembre, soit 2,8% au cours des 12 derniers mois. Tout cela valide l'attentisme manifesté par la Fed mercredi et sa décision de ne pas abaisser, probablement pour plusieurs mois, son principal taux directeur. Le baril de pétrole américain est pratiquement inchangé à moins de 73 $. Le pétrole qui, semble-t-il, fera partie des produits canadiens et mexicains qui seront surtaxés à hauteur de 25% dans les prochains jours. La décision de Donald Trump à ce propos est attendue pendant le week-end et tout cela a pesé aujourd'hui sur la tendance. On anticipe d'intenses négociations en février pour éviter l'imposition de droits de douane de 25%. L'euro retombe à 1,0373, l'indice Dow Jones rend 0,8%, le Nasdaq perd 0,3%.
Merci Pierre-Yves Dugas pour ce point sur la bourse de New York et merci à Olivier Roux qui m'a accompagné à la réalisation, à François Ballarin à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir avec Sylvie Berruet. On évoquera notamment la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo.
Demain sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Plus de 80% de la production d'huile de palme provient d'Indonésie et de Malaisie. Critiquée pour la déforestation massive et les impacts sociaux qu'elle entraîne, elle est en pleine expansion sur le continent africain. Nous vous emmenons au Cameroun et au Bénin.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI. L'épopée des musiques noires.
À 50 ans, la chanteuse américaine Madeleine Perroux, qui n'a jamais hésité à exprimer ses convictions, affiche la volonté farouche de célébrer la beauté que nous avons tous en nous. Elle nous présente son dernier album, Let's Walk, dans lequel elle évoque les enjeux sociaux de notre temps, mais souligne surtout notre capacité à résister et à avancer dans un quotidien semé d'embûches.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30 TU.
RFI.